à toutes et à tous, curieuses et curieux, décomplexés de la mort, gastronomes de la vengeance et adeptes du rire en liberté. Bonjour et bienvenue, il est midi ou peut-être 17h et vous écoutez L'Onde Curieuse. Aujourd'hui, on part en loufoquerie cathartique. Enfin, on. En réalité, Olivier et son invité Frédéric Ploussard. Moi, je pars. Simplement. Et je laisse les clés de l'interview à Olivier. En loufoquerie cathartique donc, car Frédéric Ploussard se prête au jeu de l'abécédaire d'Olivier pour la troisième fois, mais je pense qu'on peut prendre la série en cours sans avoir écouté les épisodes précédents, pour évoquer son dernier roman, 1er avril, qui vient cheminer sur des terres où seul le rire peut filer des grosses claques à la mort et au chagrin. Mais cela, je vous laisse le découvrir dans un instant, après l'agenda. Et dans cet agenda, je vous propose quelques événements qui décalent les côtes ou les idées toutes faites et éclaircissent la mort, surtout derrière les oreilles. Mardi, je vous parlais des cafés mortels, dans le cadre de la saison des vivants et des morts, portée par l'association Le Ressort, et décidément, les morts s'invitent partout. S'ils ne passent pas par la porte, ils passent par la cheminée. Et c'est ainsi que la troupe Les Compagnons de la Pierre Blanche joueront localement agité d'Arnaud Bédoué, demain à 20h30 au Théâtre de Viviers. L'histoire, c'est celle d'une fratrie qui a échoué 4 ans plus tôt à disperser les cendres de leur père selon ses dernières volontés et qui va essayer de tout faire pour y remédier, malgré la météo et la découverte d'un secret de famille. Ça me fait étrangement penser à un film des frères Cohen, ça. C'est donc à voir demain soir au Théâtre de Viviers, c'est gratuit pour les moins de 16 ans et payant pour les autres. Bah tiens. Demain également à 19h15 à Feijoas, au Vence, c'est à un café philo que vous êtes invité pour cogiter autour du livre du grand anthropologue David Graeber, Anarchiste pour le meilleur et le meilleur. Le livre en question, c'est La démocratie aux marges, dans lequel on peut lire qu'il semblerait que l'Occident n'ait pas inventé la démocratie, voire même que nous lui sommes hostiles. Alors je te vois lever un sourcil, Olivier. Pour en parler et en débattre, c'est demain à 19h15 et il est demandé d'être ponctuel. C'est à Feijoas sur la place Thibon au Vence. L'entrée est gratuite. Mais oui, évidemment, il y a d'autres lieux pour s'en philosopher comme la médiathèque d'Aubenas où tous les jeudis, tu proposes, Olivier, un atelier philo de 17h à 18h30, ce qui tombe très bien puisque ce soir, ça laisse juste le temps de filer ensuite à la librairie du Château pour rencontrer à 19h l'invité du jour, Frédéric Ploussard, qui vient parler de la sortie de son dernier livre, 1er avril. Et puis hop, tiens, une autre manière de réfléchir collectivement, c'est l'arpentage, celui qui aura lieu notamment lundi 7 avril de 19h30 à 21h30 à la cantine populaire, c'est 14 rue Nationale à Aubenas, au sujet du livre de Salomé Sacquet, Résister. De quoi ça parle? Eh bien, l'extrême droite, ça ne vous aura pas échappé, est aux portes du pouvoir, dans les urnes comme dans les esprits, ses thèmes, son narratif, son vocabulaire s'imposent, mais il est encore temps d'inverser cette tendance à condition de comprendre les rouages de cette progression et de réagir rapidement, et c'est ce que propose Salomé Sacquet. Et puis c'est quoi un arpentage? Ben, c'est une méthode de lecture collective d'un livre issu de l'éduc pop. Pendant 2 heures, plusieurs participants partagent aux autres membres du groupe le contenu de leur lecture. Et lundi, ce temps sera encadré par quelqu'un qui animera les échanges. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Olivier et de Frédéric Ploussard. Nous, on se retrouve demain pour un agenda et le cinémascope. Ciao.
Et nous nous retrouvons effectivement avec Frédéric Ploussard et nous allons commencer par écouter un peu de musique. Il s'agit de Chinese Kitchen des Feijoas, de la musique qui est dans le livre. La cuisine chinoise des Fishtones, c'est tout droit sorti de l'album Roman God 1977. C'est du garage rock de New York City elle-même. Je suis content, mais ça c'est pas du, ça c'est pas pour de semblant, de recevoir Frédéric Poussard aujourd'hui pour son troisième roman publié chez Héloïse d'Ormesson. Il y a quelque temps, c'était Mobilette, le narratif déjanté du nord de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges, qui nous avait effectivement beaucoup frappé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mobilette avait été suivi de Tout Blanc, une fiction non moins déjantée, puisque la neige n'arrêtait pas de tomber partout, all over the world, et que ça devenait vraiment inquiétant. Quoi. Enfin, c'était inquiétant. Nous étions dans l'inquiétude. Et puis, alors là, nous venons de recevoir le troisième roman de Frédéric Poussard, 1er avril, toujours, donc, je le disais, chez Héloïse d'Ormesson, qui soutiennent bien notre auteur préféré. On change de registre avec une quasi-autofiction, peut-être.
Oui. Bonjour Olivier.
Bonjour Frédéric.
Je suis content de même d'être invité. Quelle belle présentation. Alors, oui, effectivement, mon troisième livre, en partie autofiction, bien sûr, et en partie création pure, ouais. Notamment dans l'histoire des vengeances.
Oui, on espère. Alors, parce que oui, je vais raconter afin que les choses soient claires. Hein. Un couple, Pierre et Anne, débarque pour s'installer en Ardèche, ici, chez nous. Voilà, Aubenas, Vals, Privas, etc. Et puis, Pierre, le monsieur, était d'Uxpé. Il trouve du boulot dans le coin. Mais il trouve du boulot dans une institution un petit peu pourrie, avec un...
Ça arrive parfois.
Ben, il paraît.
J'ai un peu forcé le trait.
Un peu. C'était, on voyait déjà ça dans Mobilette un petit peu, hein, les côtés un peu parasitaires de l'aide sociale, de l'éducation spécialisée, avec Schweighauser ici, un patron.
Ouais,
un patron pourri, on ne peut pas dire autrement, et ses éducs, Ignace et Marine, qui valent pas mieux. Donc, effectivement, très inconfortable pour Pierre. Anne, elle, est infirmière. Elle travaille à l'hôpital d'Aubenas. Et puis, il y a deux enfants, Achille et Diane, 5-7 ans, voilà. Frères et sœurs, magnifiques. Et tout pourrait bien se passer.
Et la maladie s'invite au dîner, si
terrible.
Je peux me permettre. Terrible. Voilà, oui. Le cancer. Donc, si je peut me permettre de continuer.
Ah bah avec plaisir.
C'est un drame. C'est une histoire d'amour qui tourne mal. C'est une histoire d'amour qui finit mal.
Ouais.
Et que j'ai voulu, effectivement, dans cette histoire de ce couple qui déménage, qui s'installe dans un bel endroit, et puis la maladie arrive. J'ai voulu en faire un livre assez éprouvant, parce que la maladie est assez éprouvante, mais également un livre drôle. Parce que je voulais pas perdre le lecteur en route déjà, et puis c'est ma manière d'écrire, et je pense qu'avoir un peu d'humour, ça aère parfois les difficultés.
Ouais, mais je crois que vous donnez bien le ton de ce livre qui est un petit peu biface, comme ça, avec le côté sombre et le côté lumineux, et tout le long du livre et à chaque instant. Alors, comme nous sommes familiers les uns des autres ici à Fréquence 7, je poursuis mon abécédaire commencé avec Mobilette. Nous en étions arrivés à la lettre F que nous avions déjà un petit peu abordée. Sous l'angle d'une adaptation possible de vos ouvrages à l'écran ou à la télé, au choix, parce que vos romans, effectivement, j'avais eu envie de vous poser cette question à l'époque, parce que vos livres sont très très visuels. Alors je voulais savoir ce qu'il en était de cet éventuel passage à l'écran de vos livres.
Alors effectivement, j'ai souvent des retours me disant que mes livres sont visuels, qui pourraient être adaptés d'une manière ou d'une autre. Pour ma part, le livre est déjà un objet fini, c'est un tout. Hein. Effectivement, s'il y a adaptation, je m'en plaindrai pas. Mais on verra bien, et de fait, pour Mobilette, normalement, une adaptation est en cours en série. Ah. Voilà, sur une série de 6 épisodes. On en est aux prémices, ça peut, je pense, donner quelque chose, comme ça peut disparaître en cours de route. Mais en tout cas, il y a déjà quelque chose qui se met en place. Et sur tout blanc, on ne sait pas. Et sur 1er avril, on verra bien. Quoi.
Nous avons travaillé ici à Fréquence 7 sur le rapport, dans une émission qui s'intitulait Un livre, un film, sur les rapports de l'image et du texte. Et effectivement, on a toujours tenu à montrer que les livres avaient leur valeur en elles-mêmes et que la portée à l'écran, c'était juste l'occasion de créer une autre œuvre, voilà.
Absolument.
Pour en profiter aussi. Alors, du coup, mon abécédaire se poursuit avec la lettre G. J'ai d'ailleurs un peu l'impression que mon abécédaire s'est mis à bégayer. Je crois qu'on va rester à la lettre G. c'est comme ça. Alors, j'ai été frappé dès pratiquement le début du livre par le fait que votre personnage déteste les photographies grand format. Il y en a une dans le bureau de la conseillère de la CAF.
De la CAF, ouais.
Voilà. Il y a le poster de Baudot dans le bureau d'Ignace ou de Marine, je sais.
Ouais,
voilà. Et puis, alors, surtout, le patron de l'Institut veut absolument faire classer son arbre. Et il l'a pris en photo, un arbre qui est dans le parc de l'institution. Et alors, votre personnage déteste des photos grand format.
Déteste, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, ça le heurte parfois. J'aime bien que mes personnages aient, pour certains et même pour à peu près tous, des lubies, des choses qui leur font peur également. Et donc, lui a un problème avec... Pierre a un problème avec ces images grand format. Et voilà, c'est aussi ces images grand format qu'on voit dans nos villes, dans nos rues depuis très longtemps, ouais. Qui ne nous choquent plus, qui ne nous attirent plus le regard et qui maintenant, parfois... arrive dans un intérieur, et effectivement, j'ai le souvenir d'un mur avec une image grand format d'un pont qui part dans la brume, un pont de cordes, et j'avoue que quand je rentrais dans cette pièce, ça me faisait peur. Oui. Cette image grand format, donc je me suis servi un peu de ça dans ma littérature, en disant, de toute façon, ça peut être un bon support à rajouter une petite particularité à Pierre.
Mais vous avez éclairci la raison du malaise, la raison pour laquelle cette représentation grand format réaliste, un photo, peut choquer.
Mais je pense que le malaise, c'est justement d'avoir agrandi des photos qui parfois le justifient pas, peut-être, en se disant que cette plus grande taille va la légitimer. Il me semble que c'est un peu ça, quand même, hein, dans différentes œuvres d'art de nos jours et dans une manière de communiquer. La taille joue beaucoup sur le grand format.
Oui, je suis frappé de ça, effectivement. Pour avoir pas mal enseigné et montré des tableaux à mes élèves, on n'a pas la désagréable habitude de les projeter pour que toute la classe voit. Et après, quand ils voient la taille réelle, ils sont un peu déçus.
Oui, forcément.
À Turner, c'est aussi petit. Oui,
c'est sûr.
Donc, effectivement, je comprends. Alors, ma question sur le grand format n'était pas innocente. J'ai perdu mon innocence, voilà, bien longtemps. Déjà... Et parce que vos livres me donnent parfois cette impression de grand format, c'est-à-dire d'envoyer du lourd dans la tête du lecteur. Mmh. Et vous venez de la sculpture, vous avez en sculpture, j'ai le book devant moi, j'ai vu en sculpture effectivement des grands formats extrêmement choquants. Donc finalement, dans ce malaise que provoque le grand format, il y a aussi une complicité à l'égard.
Absolument, je ne suis pas clair dans mes propos. Je peux être complaisant avec le grand format. Mon livre sort en grand format, je suis un grand format.
Oui.
Et pourtant, pour ce personnage, ça m'a paru intéressant de lui trouver cette petite chose. Il a d'autres passions dans la vie qui sont parfois aussi bizarres et cocasses. Mais en tout cas, qu'il soit un peu choqué par ces grands formats qui se répètent dans les pièces, ça me paraissait un petit clin d'œil rigolo.
Oui, mais ça l'est effectivement. Alors... C'est difficile de rendre compte à travers un abécédaire évidemment de la dualité de l'ambiance qui se trouve dans le livre. Enfin, j'ai essayé. Alors, on va commencer peut-être plutôt par le côté sombre. Mmh. On a compris que la guerre va arriver. Guerre de cet éducateur spécialisé, Pierre, avec son institution et son directeur et certains des éducateurs. guerre, d'abord, on commencera peut-être par là, avec les parasites, il y en a aussi du monde médical. Mmh. Et puis guerre, évidemment, contre la maladie. On passera après à gag pour montrer que justement on arrive à jouer sur les deux tableaux, mmh, la lumière et l'obscurité. Cette guerre d'abord avec les parasites du monde médical, l'oncologue bientôt à la retraite qui se fout un petit peu de tout, etc. Vous, mmh, pouvez dire quelque chose de ce plus que malaise qui peut s'installer à l'hôpital.
Ensuite, c'est un constat sur ce moment donné. Parasite, je trouve ça un peu fort, mais en tout cas, mal intentionné parfois, incompétent, la relation aux patients peut être parfois tellement difficile, tellement délicate. Et effectivement, je pense que je peux dire également comment mon livre est construit. Il est construit en deux temporalités, donc la maladie dans un premier temps, cette première année, puis l'année suivante où il y a revanche et vengeance de la part du conjoint survivant qui un peu règle ses comptes avec ces gens qui ont, entre guillemets, ou pas, déconné à ce moment-là dans la relation, qui n'ont pas su dire les choses et qui les ont laissés dans une panade supplémentaire à ce qu'est déjà la maladie. Donc c'était quelque chose d'important, et cette revanche me permettait de faire rentrer l'humour dans mon texte, oui, de pouvoir l'aérer, donc en alternant réellement ces moments de l'évolution de ce cancer qui va vers le pire, avec ces moments de revanche, de guerre, de vengeance de la part de ce conjoint qui donc effectivement s'en prend aux oncologues qui n'ont pas su les accueillir, les recueillir et leur donner le bon message, s'en prend également à son ancien employeur, s'en prend à quelques personnes qu'il a un peu en travers dans la gorge, et je pense que ça emmène le lecteur dans de bonnes tranches de rigolade, et les pages suivantes peuvent être bien plus dures, c'est bon, quand on retourne dans la maladie.
Oui, complètement. D'ailleurs, effectivement, dans cette guerre à l'intérieur du monde médical, il y a aussi les forces spéciales, les as des as. Mmh. Vous dites à un moment donné, ceux qui vont en congrès à Milwaukee, ceux-là, vous pouvez leur faire confiance. Parce qu'effectivement, à Montpellier, à l'IMC, mmh, par exemple, on rencontre aussi des gens extraordinaires.
On rencontre des gens extraordinaires, absolument. Hein. Le métier d'oncologue, de cancérologue, je le respecte profondément. J'ai rencontré par contre des individus qui m'ont fortement déçu. Et dans ce qui est de la chimiothérapie, des traitements mis en place, c'est très brillant. Clairement, il y a quelque chose qui nous permet de pouvoir espérer, et ça c'est tellement important. Mais parfois l'humain fait défaut. Et dans ma relation avec ces personnels de santé qui ont donc fait défaut, alors que d'autres ont bien assuré, il n'y a pas de souci là-dessus, il y a quelque chose qui quand même est resté assez fort, quoi, et ouais, qui méritait de mettre une sorte de point à la fin de la phrase. Et cette histoire de vengeance, c'est un peu ça. Ce sont des points que j'ai mis à la fin des phrases.
Mais il y a une analogie avec le milieu de l'éducation spécialisée, parce que la corruption du directeur de l'institution où on place des jeunes en difficulté, lui, il est dans la... Il est dans la corruption pure, quoi, finalement.
Oui, il est dans la corruption facile, en tout cas. Dans l'éducation spécialisée, comme dans tant de domaines, hein, il y a effectivement des petits mamayous qui mamaillent. Et le problème dans certaines de ces structures, c'est qu'il n'y a pas réellement de surveillance, il n'y a pas excessivement de risques à mamailler. C'est un peu là-dessus que je voulais revenir, quoi, de dire que voilà, le fait de mamailler, ce n'est pas bien, mais surtout dans ce système-là, il n'y a pas de risque à le faire réellement au niveau de la carrière, au niveau de l'avancement, au niveau de la relation. Et je voulais un peu pointer ça du doigt, ces petits escrocs qui apparaissent de ci, de là, dans l'éducation spécialisée comme ailleurs, mais dans l'éducation spécialisée aussi.
Mais c'est vrai, et d'ailleurs, je veux dire, ce que vous dites là, c'est dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose de pédagogique et politique dans la description, parce qu'on a une description précise des magouilles, et on voit effectivement que ça se fait, que c'est pas très très compliqué, et qu'effectivement c'est très très peu contrôlé. Et là encore, de la même manière, dans le monde des éducateurs, des gens formidables qui s'occupent formidablement, évidemment, des gamins. Là, et à la mesure de la description des magouilles, il y a la description de la vengeance, qui elle aussi est minutieuse.
Travailler, réfléchir, elle se met en lien avec ce jour du 1er avril, hein, qui donne le titre à ce livre, donc, et qui est cette journée qui était importante pour la femme de ce couple qui en profitait fortement. La seule fête qui n'est pas encore commerciale, ou qui ne le sera pas. Ouais. Et donc, c'était pour elle et pour son conjoint également, un grand moment de féerie ce 1er avril, le jour des blagues. Et donc, effectivement, dans ce livre, je me sers de cette date pour finaliser les vengeances.
Oui, j'aurais pu d'ailleurs commencer par là, parce qu'effectivement, le titre, c'est 1er avril, c'est Poisson d'avril, et Anne, donc effectivement, la femme de ce couple, a une passion pour cette fête du 1er avril. Et le deal, enfin, c'est la mission chaque 1er avril, c'est de coller un maximum de poissons à un maximum de gens. Et elle en a toutes sortes de modèles, toutes sortes de formats. Et le poisson d'avril que prépare Pierre, le personnage principal pour le directeur de l'institution, ce poisson d'avril est effectivement de très très grand format lui aussi. Hein.
De très très grand format, qui demande une minutieuse préparation et surtout une détermination assez sincère.
Oui, oui.
Et voilà, mon rôle de romancier est de faire croire que cela peut se dérouler, que ça tient la route, et je pense y être arrivé en ce point précis.
Oui, absolument.
Dans d'autres aussi, mais voilà, les vengeances me... J'aime bien travailler sur les vengeances possibles, c'est un sujet qui je trouve laisse du champ.
Mais ça laisse effectivement ça laisse du champ. Alors ça me permet assez confortablement, on va dire, le moyen de passer à mon abécédaire qui bégaye, à savoir je reste sur la lettre G comme gag. Alors effectivement, le livre est bourré de gags. Alors pas seulement des situations burlesques, mais c'est même dans l'écriture. On pourrait donner des exemples de gags en une phrase. Une phrase peut faire gag. Mmh. C'est marrant. J'ai interrogé l'intelligence artificielle. Je lui ai demandé de me donner des exemples de phrases avec le mot gag. Elle m'a sorti que des phrases avec le mot gage. Ou gaga. Alors ça n'a rien à voir. Mais là, on est quand même un peu gaga, quand même. Voilà. Moi, je me suis demandé où est-ce que vous aviez été puiser la culture du gag, en quelque sorte. Où est-ce que vous avez... Voilà. Le cinéma...
Vaste question. Dans ma construction d'enfant, je pense déjà, ça m'a, voilà, c'est ça ma première rencontre avec l'humour. L'humour qui protège, l'humour qui fait rire. Je pense que c'est ça le point de départ de toute la chose. Ensuite, oui, j'ai toujours bien aimé les comédies, mais j'aime bien les tragédies également. Mais j'aime bien, en tout cas dans ma littérature, mêler les deux. Voilà, pouvoir désamorcer certaines situations en faisant rire le lecteur ou la lectrice simplement en tournant la page, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans mon écriture, de pouvoir l'emmener assez loin dans la douleur, dans la souffrance, enfin la maladie, cette maladie est quand même une belle saloperie, et pourtant à quelques pages plus loin de pouvoir le faire rire et l'emmener sur quelque chose de bien plus cocasse, et c'est ce qui me plaît en tout cas, c'est comme ça que j'aime écrire.
Il y a quelque chose qui vient de ces petits dessins animés américains là, That's All Folks, enfin etc, les Bugs Bunny. Il y a quelque chose qui vient de cette époque là
Sûrement, hein, je dirais, dans mon côté visuel peut-être déjà clairement, et ensuite j'en ai effectivement regardé comme tout le monde, et j'aime bien ce côté court, percutant visuellement, ça claque. Enfin, ça n'a rien perdu en justesse, je trouve, ce genre de petites pépites, quoi.
Ce que j'aime bien aussi dans le livre, on aurait pu en parler quand on parlait de l'adaptation à l'écran, etc., c'est que quand on rentre dans vos livres, on a, mais vraiment, c'est le cas de Mobilette, c'est le cas de Tout Blanc, on a une bande-son. On a vraiment une bande-son, et une bande-son qui n'est pas qu'une playlist. Il y a une playlist, mais il y a aussi il y a des bruits. Ça s'ouvre. Je trouve que ça participe à la construction du gag. On entend les gens se casser la gueule. Mmh. On entend etc.
J'aime bien ça. Alors, c'est peut-être mon côté onomatopée. J'aime bien en mettre, par exemple. Alors, ça fait un peu bande dessinée, hein, d'un côté. Voilà. Mais je trouve qu'effectivement, on est le lecteur à comprendre la situation, mais aussi bien plus. À comprendre l'environnement, à entendre les sons, à entendre les musiques. Moi, j'écris assez souvent en musique. Donc, les musiques, les morceaux qui sont dans mes bouquins viennent de ces morceaux que j'écoute. Voilà. Ça peut être du rock'n'roll, mais ça peut être un peu plus large que ça. Et ça me paraît aller de soi dans ma littérature, en tout cas, de mettre un peu de référence musicale, sans en mettre trop, j'espère.
Non, pas trop. Non, il y a cette bande-son avec effectivement playlist. Donc playlist de 1er avril, bon, bah, y a la Grande Sophie, y a les Stones qu'on vient d'entendre. Il y a les Stones, bien sûr. Il y a Bobby Lapointe. Alors on retrouve le gag un petit peu parce que Bobby Lapointe, c'est... Alors c'était le goût particulièrement d'Anne, la compagne de Pierre, Bobby Lapointe.
Ouais, c'est elle qui a amené Bobby Lapointe dans leur couple. Hein. Et c'est vrai que ça a laissé une empreinte musicale assez flagrante. Enfin, Bobby Lapointe, on peut difficilement le remplacer par quelqu'un d'autre. Ouais, hein, forcément, ou on met personne, ou on met Bobby, mais on ne peut pas s'amuser à mettre autre chose. Et ça me paraissait essentiel qu'il apparaisse, en tout cas, dans le livre.
Ouais. Alors que ça soit standard de rock ou de jazz, que ça soit chanson, j'ai interviewé ici une poétesse, Mireille Fargi-Caruso, dans ses poèmes, introduit souvent des passages de chansons. Vous savez, c'est ces chansons qu'on a dans la tête en permanence. Je crois que ce soit le gag, que ce soit la chanson, que ce soit certains standards, je crois qu'ils ont une véritable vertu cathartique, on en a parlé à l'instant. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez au prix de quel mécanisme un gag peut nous sortir de la tristesse ? Enfin, je sais pas.
Eh bien, je crois même que c'est l'utilité du gag, hein, c'est de sortir le lecteur ou le spectateur de la tristesse, que ce soit longtemps ou d'une manière fractionnée, mais... Un gars qui fonctionne, ça met un éclat de rire, même voilà, dans une grande tristesse. Ensuite, moi, je vois vraiment ça, voilà, comme une respiration du texte, peu de gag, un peu de choses, comme une, je vais pas dire une recette de cuisine parce que j'en suis pas là, mais il y a des éléments qui viennent et je cherche cette petite musique parce que vous disiez Olivier que la musique est là effectivement, mais quand j'écris, je cherche la petite musique du texte aussi. Et c'est celle-là qui fait fonctionner les gags à un moment, qui fait travailler les chutes de chapitres, qui met un rythme, qui emmène le lecteur, qui le secoue, qui le retourne, qui le laisse pantelant. Mais c'est bien ça mon travail. C'est ainsi que le texte, enfin, je le crée, quoi. Et cette petite musique est très importante.
C'est ça. C'est cette bande son explicite, elle est accompagnée de la musique du texte, ça c'est incontestable, avec cette ponctuation que constituent certains gags. On a peut-être le temps d'une dernière lettre, c'est toujours un G, c'est bête quand même. J'ai pensé à G comme gamin, très important les gamins dans vos livres, pas uniquement. Alors, il y a deux grandes catégories de gamins, je trouve, dans votre littérature. Il y a d'abord les gamins qui sont les usagers de l'éducation spécialisée.
De différentes institutions.
Souvent extrêmement touchants. Et puis, ceux que j'ai envie d'appeler nos gamins, quoi. C'est-à-dire ceux qu'on a fait, ceux dont on est les parrains, marraines, enfin, ceux dont on est les oncles ou tantes, etc. Qu'est-ce que vous diriez, déjà des gamins qui ont été comme extraits de la société là pour être placés, enfin c'est très étrange.
Et bien sûr, et là on en revient un peu au sujet de Mobilette, hein, je dirais, mais que ces enfants, ces ados avec qui j'ai bossé assez longtemps dans un certain nombre d'institutions sont touchants, intéressants, perdus, explosifs, et c'est avant tout des gamins. Alors, comme sujet de livre, ils permettent plein de choses, parce que on peut partir de ce placement, de cette séparation avec la famille, cet éloignement, cet enfermement réel ou virtuel, hein, parce qu'ils ont parfois pas de copains hors de l'institution, et puis de travailler les personnages de ces gosses, quoi. Et là, ça devient vite intéressant, enfin, en tout cas pour moi, quoi, clairement, d'en reparler, de leur donner une épaisseur, celle qu'ils méritent et qu'ils ont rarement, alors que j'ai mis dans Mobilette et effectivement que je remets dans 1er avril. Je reviens avec ce bon gosse de Kevin qui part chercher sa sœur et eux, j'en ai beaucoup à dire, quoi, bien sûr. Et puis concernant nos enfants, notre progéniture, et ben c'est mon statut de père qui m'a donné à voir cet angle-là, bien sûr, et à pouvoir me dire mais je peux en jouer aussi, et non pas frontalement en les mettant en opposition avec ces gamins placés, mais en jouant sur le fait que Proust, c'est les mêmes, qu'ils ont la même base, qu'ils ont plein de choses en commun, mais que leur environnement étant tellement différent, eh bien, ça donne d'un côté des gamins sur le fil, des gamins complètement perdus et énervés, et puis d'autres, des gamins qui se construisent gentiment, mais avec des difficultés aussi, avec, donc dans ce, excusez-moi, dans le livre, la perte de la mère, quoi, et qui effectivement, bien sûr, pour n'importe quel enfant, est un drame absolu qu'ils arrivent pourtant à surmonter. Et c'est là-dessus que je voulais également en parler, dire que parfois, les enfants sont plus forts que les parents dans certaines situations, et que l'enfant est une force. Ouais. Et c'était un peu ça, le principe.
Ce qu'ils ont en commun, en tous les cas, tous les enfants, et nous l'avons en commun avec eux, c'est que nous avons des histoires. Nous avons des histoires merveilleuses. Celle de Kevin est tout à fait étonnante. Elle aussi, gaguesque un peu. Et puis des histoires douloureuses et des histoires merveilleuses. Voilà. Frédéric Poussard, il me reste à vous remercier d'être venu nous parler.
Pareillement, merci à vous.
C'était un plaisir de parler donc des trois histoires désormais, Mobilette, Tout Blanc et 1er avril qui vient de sortir chez Héloïse d'Ormesson. Je remercie Sylvain qui réalise tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt, et en particulier ce soir à la librairie du château. Ciao, ciao.